Laudetur Jesus Christus.
Un massacre révélé ce matin par Amnesty International dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie. Il aurait eu lieu fin novembre à Aksum, l'une des principales villes de la région. Selon l'ONG, l'armée érythréenne qui a soutenu le pouvoir éthiopien contre les rebelles indépendantistes tigréens y aurait tué des centaines de civils. Le Tigré, région toujours coupée du monde. Nous retrouverons notre correspondant à Addis Abeba au début de ce journal. L'Arménie, pays coupé en deux après les manifestations d'hier à Erevan, le divorce semble consommé entre le gouvernement et l'armée. La communauté internationale, elle, appelle au calme. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les inquiétudes des Nations Unies concernant l'état de droit qui se dégrade au Nicaragua. Et puis dans notre dossier, nous vous emmenons au Brésil ce matin, où la pandémie de Covid rebat les cartes politiques. Et c'est le président Jair Bolsonaro qui semble tirer son épingle du jeu. Soutenu au début de son mandat par la droite et l'extrême droite, les classes aisées, Jair Bolsonaro se fait désormais le chantre des plus pauvres, les premières victimes de la pandémie. Nous analyserons dans notre dossier ce repositionnement politique qui semble porter ses fruits.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, je vous le disais au début des titres, c'est un massacre loin des regards. Dans un rapport publié ce vendredi, l'ONG Amnesty International dénonce une tuerie de masse dans la province éthiopienne du Tigré. Les exactions, auraient eu lieu à Aksum, la troisième ville de la région. Le Tigré est toujours en proie au combat, mais son territoire étant bouclé, il est très difficile d'y mener une enquête. L'ONG dénonce néanmoins la mort de centaines de civils par l'armée érythréenne venue en soutien à l'Éthiopie contre les combattants indépendants. On fait le point avec notre correspondant en Éthiopie, Noé Ochebaudin.
C'est une tuerie de masse, une punition collective qui se serait abattue sur Aksum en novembre, selon le consultant Jean-Baptiste Galopin, qui a collaboré avec Amnesty International.
Un massacre qui a eu lieu durant environ 24 heures, les 28 et 29 novembre, de la part des troupes érythréennes, en réaction à une attaque d'un petit groupe de combattants sur une base érythréenne dans la ville d'Aksum.
Difficile pour l'heure d'établir un bilan, mais l'ONG l'estime à plusieurs centaines de morts. On le rappelle, mener l'enquête est un vrai casse-tête, car la province du Tigré est encore largement coupée du monde, sans véritable accès ni télécommunication. Amnesty International parle de multiples crimes de guerre commis à Aksum.
Le massacre, ça a été la culmination d'une série de violations qui a été précédée de bombardements indiscriminés et également suivi d'exécutions extrajudiciaires. Durant cette période, les forces érythréennes ont également pillé la ville d'Aksum à grande échelle et de manière vraiment systématique.
L'ONG demande la tenue d'une enquête diligentée par les Nations Unies. Le gouvernement éthiopien a déjà refusé au mois de décembre. Il estimait ne pas avoir besoin, je cite, « de babysitter pour mener des enquêtes indépendantes ». Addis Abeba, Noé Ochebaudin, Radio Vatican.
Des frappes américaines contre des infrastructures des milices pro-iraniennes en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces frappes ont détruit plusieurs camions de munitions qui venaient en Irak au niveau d'un poste frontière illégal au sud de la ville syrienne de Boukamal. 17 paramilitaires irakiens pro-Iran auraient péri. Il s'agit des premières frappes décidées sous l'administration de Joe Biden. Lundi dernier, des roquettes étaient tombées non loin de l'ambassade américaine à Bagdad. En Libye, le Premier ministre désigné a soumis hier la structure et la vision de son gouvernement, et ce en vue de son approbation par le Parlement. C'est la première étape d'une transition qui prévoit la tenue d'élections législatives le 24 décembre prochain. La tâche d'Hamid Debeya est de tenter d'unifier un pays encore coupé en deux. Un pays coupé en deux également en Arménie. Des appels au calme toujours ce matin après la tentative de coup d'état militaire dénoncée hier par le Premier ministre Nicole Pachinian. De nombreux pays montent au créneau, parmi eux les États-Unis et la Russie, qui exhortent l'armée arménienne à ne pas intervenir dans les affaires politiques. Mais pendant ce temps-là, le pays s'est fracturé, Delphine Allaire.
Oui, Olivier, et la communauté internationale veut à tout prix éviter l'escalade des violences. Washington suit de près la situation et a appelé hier à la retenue. Même tonalité chez l'allié russe, ton un peu plus ferme de la part de la Turquie, pourtant ennemi juré de l'Arménie, qui condamne nettement la tentative de putsch. Le Premier ministre Pachinian, qui l'avait annoncé, a pris la tête hier aussi d'une importante manifestation de ses partisans partisans. Plusieurs heures après que l'état-major a réclamé la démission du chef du gouvernement, aucun mouvement de troupes n'était toutefois visible dans les rues de Yerevan. Le ministère de la Défense juge pour sa part inacceptable d'entraîner l'armée dans des processus politiques, désavouant ainsi le commandement. Devant quelques 20 000 sympathisants, le Premier ministre a appelé en tout cas les généraux à se plier aux ordres, tandis qu'à quelques mètres de là, l'opposition à Nicole Pachinian s'était rassemblée pour demander à nouveau son départ. Le Premier ministre arménien, dont l'autorité est affaiblie depuis la défaite militaire du pays dans le conflit du Haut-Karabakh, vécu comme une humiliation nationale.
Delphine Allaire, merci beaucoup. En Russie, l'opposant Alexei Navalny, transféré vers un lieu inconnu, il a quitté hier sa prison à Moscou. Il était détenu depuis son retour au pays à la mi-janvier. Le médiatique opposant à Vladimir Poutine, chantre de l'anticorruption, doit purger une peine de 2 ans et demi derrière les barreaux. L'Union européenne a annoncé hier, elle, sa décision de prolonger jusqu'au 28 février 2022 les sanctions imposées au président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, et aux membres de son régime. 88 personnes, dont le président bélarus, et 7 entités ont été sanctionnées par une interdiction de voyager dans l'espace européen et un gel de leurs avoirs. En Belgique, la conférence des religieux et religieuses exprime son inquiétude auprès des autorités régionales pour l'absence de plan de vaccination anti-Covid concernant les établissements qu'elle gère dans le pays. La COREB demande que les 1750 religieux et religieuses qui y vivent et les personnels de santé soient reconnus comme des personnes à risque. Ce n'est toujours pas le cas. Sachez que la pandémie et la vaccination étaient au cœur d'un nouveau Conseil européen hier. Nous devons maintenir des restrictions fermes tout en musclant nos efforts pour accélérer la vaccination, ont déclaré les 27 à l'issue de ce sommet. Direction à présent l'Amérique centrale. L'état de droit inquiète les Nations Unies au Nicaragua. 9 mois des élections présidentielles dans le pays. L'ONU s'inquiète en effet de l'état de droit qui se détériore. Voici 3 ans que le Nicaragua est secoué par une crise politique depuis la violente répression des manifestations antigouvernementales en 2018. Léa Morillon.
Des élections libres, justes et transparentes. Voilà ce que réclame l'ONU après la présentation d'un rapport sur le Nicaragua jeudi devant le Conseil des droits de l'homme. Les Nations Unies s'inquiètent de la détérioration de l'état de droit dans le pays d'Amérique centrale. Elles réclament une réforme électorale d'urgence en prévision des élections générales de novembre prochain. Selon la haute commissaire aux droits humains Michelle Bachelet, l'adoption de plusieurs lois portant atteinte à la liberté d'association, d'expression ou de participation politique prouve la restriction continue de l'espace civique et démocratique. Un constat rejeté en bloc par le gouvernement nicaraguayen qui juge le rapport de l'ONU unilatéral, partial et manquant d'objectivité. En décembre, le Parlement a pourtant approuvé une loi qui pointe clairement du doigt l'opposition. Le texte exclut des élections ceux qui font la promotion de sanctions étrangères à l'encontre du Nicaragua. Et quelques semaines auparavant, entrée en vigueur la loi contre la cybercriminalité destinée à punir les personnes dénonçant les abus de Daniel Ortega. Au pouvoir depuis 2007, l'ex-guerriero sandiniste est accusé d'avoir instauré une dictature marquée par la corruption et le népotisme, mais il pourrait bien briguer un 4e mandat consécutif. Léa Morillon pour Radio Vatican.
L'ambassadrice du Venezuela auprès de l'Union européenne déclarée persona non grata, une réponse à la décision de Caracas plus tôt cette semaine d'expulser la représentante européenne au Venezuela, le régime de Nicolas Maduro qui entendait protester contre de nouvelles sanctions visant son pays. En Birmanie, le mouvement de contestation se poursuit contre la junte militaire. De nombreux fonctionnaires appellent à la désobéissance civile, faisant tourner au ralenti les administrations. Ce matin, encore plusieurs manifestations pacifiques ont eu lieu à Rangoon, la principale ville du pays. Direction l'Inde, qui a annoncé hier de nouvelles mesures pour réguler les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Si certains changements imposent aux entreprises de mieux lutter contre les contenus injurieux ou violents et de classifier les films pour prévenir les parents, d'autres mesures vont permettre aux autorités de mieux censurer les contenus jugés trop critiques. Les explications à New Delhi d'Emmanuel Derville.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, la droite fondamentaliste hindoue utilise les réseaux sociaux pour diffuser son discours, y compris des propos haineux à l'égard des minorités religieuses et de fausses informations. En décidant d'imposer des règles, le gouvernement affirme vouloir endiguer les informations mensongères et tenir les enfants à l'écart des contenus jugés trop violents. Mais depuis plusieurs mois, les autorités multiplient les pressions pour intimider l'opposition sur Internet. Une militante écologiste a été arrêtée la semaine dernière pour avoir partagé un guide regroupant des conseils destinés à aider les agriculteurs en colère qui manifestent près de Delhi depuis 3 mois. La jeune femme a été relaxée hier par la justice. La nouvelle réglementation interdit les messages qui portent atteinte à la sécurité de l'État et aux relations avec les pays alliés. Une formulation peu précise qui pourrait donner au gouvernement les moyens d'intensifier ses efforts d'intimidation. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un petit mot de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Sachez qu'elle vient d'être traduite pour la première fois en russe. Une traduction qui sera officiellement présentée la semaine prochaine à Moscou. Un travail réalisé par une maison d'édition musulmane, c'est à noter, et qui a été faite avant la fête de Noël. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. Je vous le disais en titre, nous partons au Brésil ce matin dans notre dossier. Le Brésil où la pandémie de Covid-19 rebat les cartes politiques. Et c'est le président Jair Bolsonaro qui semble tirer son épingle du jeu. Très décrié à l'étranger pour son attitude lors de l'apparition du virus dans le pays début 2020. Son refus du masque par exemple, ou la lenteur de la réaction des autorités pour endiguer la progression de l'épidémie. Jair Bolsonaro est parvenu à maintenir un taux de satisfaction élevé parmi la population de l'ordre de 40% et à poursuivre sa ligne anti-élite. Soutenu au début de son mandat par la droite et l'extrême droite, les classes aisées et les élites économiques du pays, Jair Bolsonaro se fait maintenant le chantre des plus pauvres, première victime pourtant de cette pandémie. Christophe Ventura est directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Amérique latine-Caraïbes. Il revient sur le repositionnement politique de Jair Bolsonaro et le changement d'alliance qu'il semble avoir opéré.
On a vu énormément de tensions autour du débat sur la stratégie à opposer à la propagation du Covid, débat stratégique autour du confinement ou du non-confinement, et autour de ce clivage qu'a savamment nourri Jair Bolsonaro, eh bien, c'est tout un repositionnement politique qui a opéré au Brésil, où Bolsonaro, finalement, a utilisé la pandémie pour nourrir sa confrontation avec le système, avec l'establishment brésilien, en cherchant à se positionner comme le défenseur des populations qui n'ont pas le loisir, la possibilité de pouvoir se confiner, de pouvoir compter sur un habitat confortable, sur des moyens financiers, une épargne qui permettent de faire face à la pandémie. Donc il s'est présenté comme le héros du petit peuple brésilien.
Les soutiens de Jair Bolsonaro lui ont tourné le dos, lui-même prétend défendre les intérêts des plus pauvres. Qu'en est-il exactement ?
L'affaire du Covid, elle est venue lui ôter une partie de ses soutiens, en particulier parmi les classes moyennes et supérieures urbaines, et puis aussi parce que Bolsonaro et sa famille sont désormais concernés directement par des affaires de corruption qui vont venir obscurcir d'ailleurs l'année prochaine la campagne présidentielle. Donc il a perdu ses soutiens là, donc c'est quand même assez important. Mais il a gagné en retour un autre électorat qui était plutôt des gens qui votaient avant pour Lula, et qui, parce que Bolsonaro non seulement les a défendus, dit-il, au nom du droit de travailler, du droit de la protection de l'économie, mais en plus il a mis en place un plan d'urgence financière, d'allocation, et manifestement ce plan lui a quand même permis d'avoir une adhésion assez importante dans ces populations précaires, vulnérables, voire pauvres.
Est-ce que ce changement de composition de sa majorité, entre guillemets, se vérifie également au Congrès ?
Oui, tout à fait. Il a perdu une partie de ses alliances au Congrès, en particulier avec les deux partis centraux, du centre-droit et de la droite, qui l'avaient appuyé en 2018. En revanche, Bolsonaro, tout en redirigeant sa politique vers les populations plus modestes et plus rurales, eh bien, a en même temps scellé une nouvelle alliance avec ce qu'on appelle le Centrao en portugais, qui est en français, on pourrait traduire comme le gros centre, qui est une coalition d'une quinzaine de partis qui, dans le Congrès, font un peu et défont les alliances en s'alliant avec les grands partis de gouvernement en contrepartie subsides, de postes dans les gouvernements, dans les hautes administrations. Donc aujourd'hui, il est dans une position plutôt solide au Congrès.
L'armée qui, depuis le début, est assez proche de Jair Bolsonaro, est-ce que là aussi, le président peut compter toujours sur son soutien ?
Oui, il peut compter sur le soutien des militaires, même si par moments, les militaires ont aussi un rôle manifestement de temporiser les ardeurs du président et de ses secteurs les plus radicaux d'extrême droite. À chaque fois que Bolsonaro a été en danger ou menacé d'être lâché par les partis politiques qui sont avec lui, les militaires ont toujours tapé du poing sur la table pour rappeler que Bolsonaro était l'élément de la stabilité politique brésilienne et qu'il était dans son droit lorsque il condamnait les autres institutions qui prenaient des directions différentes de celles de l'exécutif. Et les militaires ont rappelé que Bolsonaro était d'abord celui lui qui incarnait la prédominance du pouvoir exécutif dans le système politique fédéral brésilien, et que c'était bel et bien la vision des militaires que d'avoir un exécutif fort. Les militaires sont là avec lui.
Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Christophe Ventura, responsable du programme Amérique latine Caraïbes à l'IRIS, l'Institut de recherche et relations internationales et stratégiques, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information reviendra à 13h. Je vous souhaite une excellente journée.